Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans cette belle salle du NIMAI. D'ailleurs on remercie l'université d'avoir mis cette salle à notre disposition. Au nom de Première Église du Christ Scientiste ici à Genève, j'aimerais vous souhaiter à tous la bienvenue pour cette conférence ce soir, dont le titre est « Le but de la vie, resplendir ». Je ne sais pas si vous avez reçu le petit prospectus, mais derrière ça nous explique un petit peu ce qu'on va y découvrir. Premièrement, pourquoi c'est important de savoir qui nous sommes vraiment. Je crois que c'est une bonne question. Aussi, en fait, de voir quelle est notre raison d'être à chaque étape de notre vie, qui reste aussi une question que beaucoup de personnes se posent. Et puis ensuite, eh bien, sûr, comment est-ce qu'on peut utiliser les moyens spirituels pour nous aider dans les différentes démarches de notre vie, les différentes décisions importantes, et même quand nous avons des difficultés, comment ça peut nous aider à ce moment-là. Si vous voulez en savoir plus à la fin de la conférence, on vend aussi à la sortie le livre dont le conférencier va parler, pour une vingtaine de francs, si j'ai bien compris. Alors voilà, eh bien, écoutez, qui va nous parler ce soir? C'est Monsieur Tom McElroy. Monsieur Tom McElroy, après ses études universitaires, en fait, a été impliqué dans le milieu financier et bancaire, mais en parallèle, il a aussi été aumônier. Donc il a fait des visites, par exemple, dans les prisons, pour porter, je veux dire, la bonne parole. Il est praticien de la science chrétienne, ça veut dire qu'il consacre tout son temps à aider les personnes pour leurs difficultés, qu'elles soient personnelles, financières, relationnelles, etc., etc. Et il est aussi membre du conseil des conférences de la science chrétienne, ça veut dire qu'il parcourt le monde pour expliquer ce que c'est la science chrétienne. Il donne des conférences publiques, de nouveau dans les prisons, dans des universités, comme aujourd'hui, dans d'autres écoles, etc., etc. Il parle en anglais et en français. Ce soir, la conférence est en français. Et puis, de par ce fait, eh bien, il s'est exprimé non seulement aux États-Unis, Canada, Angleterre, mais aussi Asie, Afrique, etc. Donc, nous sommes ravis de le recevoir ce soir et je vous demande de m'aider à l'accueillir. Bonsoir.
Merci beaucoup. Merci pour cette gentille introduction. Je viens d'apprendre le français, en fait, il y a juste une année, deux années, donc je sais bien que je fais les fautes encore beaucoup, je sais. Donc n'hésitez pas, vous, de me demander si vous avez des questions ou si vous ne pouvez pas me comprendre, d'accord? D'accord, ok. Mais aujourd'hui, ce soir, on va aborder le sujet du but de la vie. Vous avez entendu quelle est notre raison d'être, par exemple, les questions à propos de ça, comment nous pouvons trouver le bien dans la vie que nous cherchons, qui est important pour nous tous d'avoir un sens d'une vie qui est pleine de sens, épanouie. Mais tout d'abord, avant ça, je voudrais parler juste un petit peu des deux mots « science » et « chrétienne ». Souvent, les gens, ils savent les deux mots, mais dans un sens qui est séparé. Mais qu'est-ce que ça veut dire quand on met les deux mots ensemble? Pour moi, je voudrais toujours expliquer les choses dans une manière qui est simple. Ça ne veut dire pas que c'est pas profond. Pour moi, on peut avoir un sens des choses qui est profond, même si c'est simple. On ne veut pas rester seulement à la surface des choses, mais on ne veut pas avoir un sens des concepts qui est abstrait, qui nous ne pouvons pas trouver un lien entre les idées et nos vies. Donc, la simplicité est trouver cette relation entre les idées spirituelles, les idées et comment ils nous aident dans notre vie quotidienne. Donc, le mot, par exemple, le mot chrétien, ce mot, ça veut dire beaucoup de choses pour beaucoup de gens. Il y a, bien sûr, beaucoup de confessions, par exemple, beaucoup de façons de comprendre ce mot, chrétianisme. Mais pour moi, pour trouver un sens qui est à la base de tout ça, c'est pas quelque chose qui appartient seulement à une religion, à un certain groupe, mais à la base de mot chrétien ou chrétianisme, pour moi, ce mot appartient ce signifie la vie de Jésus-Christ et ses enseignements, son amour, sa vision, les guérisons qu'il a fait et les disciples, les étudiants qui ont suivi ses enseignements, qui ont fait la même chose dans leur vie. Ils ont aimé les gens dans la même manière. Ils ont aidé les gens dans la même manière, selon les enseignements de Jésus-Christ. Donc, à part d'une religion spécifique, le mot chrétienisme appartient de ça. À ce temps-là, en fait, le mot chrétien n'était pas utilisé. Oui, ce mot on utilise ce mot aujourd'hui, mais à l'époque-là, les gens ils ont dit seulement le chemin. Donc c'était vraiment juste une façon de voir les choses, de penser à les choses, d'agir dans la vie quotidienne. Et pour moi, à la base, ça c'est le chrétianisme. C'est seulement basé sur ça. Le mot science, même quand dans le chrétianisme, il y a beaucoup de confessions, il y a bien sûr beaucoup de sciences différentes. Oui, il y a la chimie, il y a la géologie, il y a la mathématique, par exemple, ils sont tous les sciences. Mais à la base, quelle est la relation entre toutes les sciences? Une science, pour moi, ce mot signifie que quelque chose est basé sur les faits qui peuvent être compris et démontrés. Ils sont les idées. On ne doit pas avoir seulement un foi aveugle dans une science, par exemple, dans une classe de mathématiques. On ne dit pas seulement que je crois dans la mathématique. 2 fois 2 = 4, ça c'est une fait de mathématiques, mais on ne dit pas seulement que je crois, oui. On comprend le principe et on applique ça dans la vie quotidienne. On applique ça à le supermarché, on applique ça à la banque et partout, oui. Donc à la base d'une science, il y a les idées que quelqu'un doit comprendre et appliqué à la vie quotidienne. Une autre caractéristique d'une science pour moi est égalité. Il y a un sens d'égalité ou la caractéristique d'universalité. Universalité, merci. Donc par exemple, on ne dit pas que 2 fois 2 = 4 pour quelqu'un, mais pas pour quelqu'un d'autre. Oui? On sait bien que 2 fois 2 = 4 pour tout le monde dans ce salle, même pour une petite fille dans les montagnes d'Afghanistan. Oui? On ne doit pas gagner le droit d'avoir ce fait appliqué dans la vie quotidienne. Oui? On ne peut pas gagner ça et on ne peut pas l'amoindrir, ce fait. Ça applique à tout le monde également. Donc, une science, à la base d'une science, est quelque chose qui est universel et égal. Aussi, quelque chose qui est une science est quelque chose qui existe tout le temps, sans exception, ça ne change pas. Oui, donc quelque chose qui est une science, 2 fois 2 = 4, c'était vrai il y a 2000 ans. Et c'est vrai aujourd'hui. On ne croit pas que peut-être aujourd'hui, ça peut être 4.1. Oui, c'est exact. Une science, c'est quelque chose qui est exact et ça ne change pas. Donc, ça appartient à tout le monde, ça ne change pas. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on met les deux mots ensemble? Vous avez entendu que je suis praticien de la science chrétienne, qu'on va parler aujourd'hui de cette façon de comprendre les enseignements de Jésus-Christ et les enseignements dans la Bible. Mais qu'est-ce qu'on fait quand on met les deux mots ensemble? Pour moi, c'est une façon de comprendre les enseignements de Jésus-Christ. C'est une façon de dire que s'il y avait les faits à la base de sa vie, de son amour, de ses enseignements, de ses guérisons, si c'était vrai dans l'époque là, ça doit être vrai aujourd'hui. S'il y avait une vérité là-bas, ça ne peut être vrai dans une époque, mais dans l'autre époque. Si oui, c'est seulement une opinion. Mais si c'est une vérité, quelque chose basé sur les lois, ça veut dire que c'est quelque chose que tout le monde comprendre. Tout le monde doit avoir plus qu'une foi aveugle, mais une foi basée sur une compréhension de les faits, les principes derrière de cette vie. La puissance qui est brillée à travers de cette vie. L'amour qui est brillé à travers, qui brille, merci, à travers de cette vie. Donc, c'est un contexte vraiment, un contexte de comprendre cette vie, de dire que si c'est vrai, ça applique même pour moi, même pour une fille dans les montagnes d'Afghanistan. Je ne dois pas gagner le droit pour ça d'appliquer à ma vie. Oui, il est vrai ou pas vrai, c'est tout. Et je ne peux pas détruire une fait comme ça. Si c'est vrai, il n'y a pas quelque chose qui peut l'amoindrir, ce fait. Donc ça me fait voir, par exemple, si je ressens dans une conférence comme ça, et j'espère que vous avez le même sentiment, peut-être un peu de paix, d'une inspiration, et nous sortons, et peut-être nous sommes en route, et il y a une, quelqu'un fait quelque chose sur le route qui coupe la route, on dit ça en France? Ouais, ok. Pardon?
La route.
Pardon. Mais est-ce que la paix, ça existe encore? Oui, s'il y a une science derrière de cette paix, ça existe encore. Ça existe partout et pour tout le monde. Donc ça nous fait voir que l'amour de Jésus-Christ, par exemple, appartient d'un certain groupe ou un certain endroit. C'est partout et tout le temps. Comme j'ai dit, c'est un contexte pour ces enseignements. D'accord? Tout le monde comprend? Ok, bon. Donc c'est dans ce contexte de la science chrétienne, on va aborder notre sujet de le but de la vie, notre raison d'être. Est-ce que vous avez déjà entendu la question qu'est-ce que vous voulez faire dans la vie? Peut-être quand vous êtes petit, peut-être aujourd'hui. Levez la main, et si vous avez entendu cette une question comme ça? Oui, bien sûr, oui. Mais cette question, ça vient souvent quand nous sommes jeunes, mais ça vient encore tout le temps, je crois. Mais peut-être dans une façon un peu différente. On dit, qu'est-ce que je veux étudier? Qu'est-ce que je vais faire après mes études? Qu'est-ce que je vais faire quand j'ai les enfants? Qu'est-ce que je vais faire à la retraite? Oui, il y a toujours cette question. Qu'est-ce que va venir? Qu'est-ce que c'est le prochain état? Et est-ce que je vais être d'accord? Est-ce que je vais trouver le bien qui est important dans ma vie? Ils sont les grandes questions comme ça, les grandes questions. Oui, vous avez des questions comme ça aussi? C'est seulement moi. Ok, ça vient tout le temps, je crois, pour beaucoup de monde. J'étais avec une amie et son fils, nous jouons ensemble, et ce jeune homme, il a dit tout d'un coup, je voudrais tout faire quand je serai grand. Et il a fait une pause, et après un moment, il a dit, et puis peintre aussi. Et je ne sais pas pourquoi peintre était séparé de tout, mais il a eu un sens d'une vie qui était sans limite. Mais je vois souvent que nous avons le sens de les limites, il vient tout le temps. Quand nous étudions, on dit ça, étudions quelque chose, nous avons l'idée que on doit seulement faire un certain trajet après les études comme ça. Ou si je suis marié, ou j'habite dans une certaine région, ou j'ai une certaine culture, ou ma famille est comme ça. Tout ça crée un sens d'une type d'une boîte, oui. Et on a le sentiment que c'est peut-être les options de répondre à la question comme qu'est-ce que je vais faire et comment je vais trouver le bien dans la vie qui est important pour moi. Nous avons le sentiment que nous avons moins des options après un peu de temps, souvent. Oui, ça arrive. Mais un enfant comme ça, il n'avait pas ce sentiment. Oui, pour lui, tout est la liberté. Tout était possible. Donc aujourd'hui, je voudrais parler comment nous pouvons peut-être un sens d'une vie épanouie sans ses limites, un sens d'une vie qui est libre. Mais avant ça, je voudrais vraiment parler des qualités qui sont importantes pour vous, pas seulement pour moi. Donc je voudrais savoir quelles sont les qualités dans la vie quotidienne qui sont importants pour vous. C'est quoi une vie pleine de sens pour vous? Quand vous pensez à une vie épanouie, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Et je voudrais vraiment parler des qualités à ce moment, parce que parfois on dit si j'ai un épouse, si j'ai plus d'argent, je peux avoir une vie pleine de sens ou épanouie. Mais par exemple, si on dit je veux argent, il dit quelque chose de différent. Une personne dit que je veux argent, mais ça signifie qu'il veut respect. Et quelqu'un autre dit je veux l'argent, mais ça signifie pour eux qu'ils veulent l'opportunité. Et pour quelqu'un autre, ça veut dire qu'il veut l'argent pour sécurité. Vous voyez, c'est pas seulement la chose à la surface, mais c'est la qualité derrière de ça. Donc, je voudrais commencer avec les qualités spécifiquement. Et si je peux avoir un scribe, c'est ça, un scribe, qui va écrire pour moi. Bon, merci. Un applause pour notre scribe. Let's make a line down the middle.
Okay. I write like a doctor.
Oui, ok. Et les qualités ici, on va mettre quelque chose autre ici. Ok, pour vous, c'est un peu interactif, ok? Mais quelles sont les qualités qui sont les plus importantes pour vous quand vous pensez à une vie pleine de sens? Sérénité et? Pardon? L'amour, très bien. Honnêteté. Et la paix.
Santé.
Oui, quoi d'autre?
L'amour de Dieu.
Ok. Elle a dit l'amour de Dieu, mais on va rester avec parce qu'il y a beaucoup. On va revenir à cette idée, c'est très important, oui.
Enthousiasme.
Oui, j'ai eu la joie. Oui, joie. Quoi d'autre?
Bonheur.
Oui. Intelligence. Oui, la sagesse. Beauté.
La paix.
La paix, on a la paix déjà. Sécurité, je crois.
Compassion.
Énergie.
Sagesse.
Bon, la sagesse de Dieu, oui. La pureté. Pardon?
Altruisme.
Innocence. Quelques autres?
Tolérance.
Pardon? Une fois encore?
Non? Je n'ai pas entendu répéter.
Quelqu'un
a... Vous avez
changé d'avis. OK. Quoi d'autre?
Famille.
Pardon?
Famille.
Famille. Oui, on va mettre dans l'autre côté les endroits où on croit qu'on va trouver ces qualités. Donc, pour le moment, on va séparer les deux, mais ils ont une relation très importante. Mais pour ce moment, c'est juste les qualités. Donc, pour vous, par exemple, quand vous pensez à une famille, quelles sont les qualités qui apportent la famille, les qualités importantes? Oui, on a l'amour, très bien. Gratitude et don de soi.
Bon.
Harmonie. Ok, bon, on va arrêter là-bas pour le moment. Harmonie. Très bien. Ok, très bien. Ok. Et maintenant, dans l'autre côté, comme j'ai dit, je voudrais trouver les endroits. Oui, on pense qu'on va trouver les qualités là-bas où c'est notre entourage, le monde qui nous entoure, qui dit que on doit avoir les certaines choses pour arriver d'avoir ces qualités, par exemple. Quelles sont les choses, les endroits où on a l'attente de trouver les choses comme ça, ces qualités? Oui. Une philosophie de vie, ok. Peut-être les choses un peu plus tangibles. Oui, oui, ça va.
Travail,
très bien. Famille, oui.
École,
oui. Pardon?
Une maison,
oui, oui. Pardon? En nous-mêmes. Oui, ok. Les amis, voisins, oui. La nature, très bien. Notre entourage, oui.
Activité,
oui.
L'argent,
bien sûr. Pardon?
Le sport,
oui. Pardon? Les relations, oui. Deux autres peut-être? Oui, on a la santé, on dit le corps peut-être? Oui. Ok. Pardon? Méditation, oui, très bien. Ok, comment on dit applause en français?
Applaudir.
Applaudir, ok. Un autre applaudi pour notre scribe. Bon, merci. OK. On va, comme j'ai dit, on va parler de la relation entre ces deux listes. Je voudrais dire tout d'abord que ce n'était pas comme les choses importantes, les choses qui ne sont pas importantes. On peut voir que les choses comme le travail, l'éducation, les amis, les familles, ça, c'est, tout ça est important, mais il y a une relation là-bas. Et on va, comment dire, penser à ça pendant toute la conférence aujourd'hui. Mais quelque chose que je peux voir ici, que ce liste, si je voudrais trouver ces qualités qui sont très importantes pour moi, et comme vous avez dit, ils sont importants pour vous aussi, si je cherche les qualités, ici, on manque une caractéristique qui est très importante. Et ça, c'est la fiabilité. Oui? La constance. Fiabilité? Bon, OK. Parce que on peut avoir le travail que nous voulons ou non. Ça peut venir, ça peut va. Oui? On dit ça?
Ça va et ça vient.
Ça va et c'est bien. OK, ça va et c'est bien. Les amis, c'est la même chose, oui. Ma famille, je peux, par exemple, je voyage beaucoup pour mon travail. Je suis de temps en temps avec ma femme, mais de temps en temps, je ne suis pas avec ma femme. Donc, si je cherche, par exemple, l'amour seulement avec ma femme, j'ai l'amour quand je suis avec ma femme, mais pas quand je suis ailleurs, oui. Donc, les sports ou tout ici, pour moi, c'est l'idée que tout ça peut venir et aller. Oui, OK. Donc, ils sont importants, mais il manque pour moi la caractéristique de constance, de fiabilité. Et si nous devons trouver ces qualités pour avoir une vie pleine de sens, épanouie, pour moi, je crois que c'est important de trouver ces qualités dans une manière qui est constante et qui est fiable. Par exemple, si je dis que l'amour est très important pour moi d'avoir une vie pleine de sens, mais j'ai l'amour seulement 5 fois par semaine, est-ce que j'ai vraiment un sentiment d'avoir l'amour dans ma vie dans une manière qui est fiable? Et si j'ai la sécurité, mais je sais que ça peut disparaître tout d'un coup, est-ce que j'ai vraiment un sens de sécurité, même quand j'ai les choses que je crois me donnent la sécurité? Par exemple, si j'ai une maison, j'ai dit que j'ai plus d'un sens de sécurité quand je suis chez moi, mais quand je suis ailleurs, est-ce que j'ai vraiment un sens d'une vie qui a la sécurité ou non? Donc pour moi, je crois qu'on doit chercher une façon de trouver ces qualités dans une façon qui est fiable et constante. Et comme j'ai dit, on va parler de ça et la relation entre les deux listes. Mais pour un moment, je vais expliquer une histoire de ma vie. Quand j'ai fini mes études universitaires, j'ai eu un diplôme en philosophie. C'est la philosophie. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce que vous savez? Chômage, il dit chômage. C'est pas gentil. Hein? Pardon? Ah oui. Ouais. Mais quelquefois, on peut enseigner la philosophie. Il y a les options, mais c'est un peu difficile. Et pour moi, j'ai en fait, comme quelqu'un qui a eu un diplôme en philosophie, j'ai eu beaucoup d'idées et je peux faire les arguments pour les deux côtés. Oui. Mais finalement, je n'avais pas beaucoup des idées concrètes, beaucoup d'idées concrètes. Ma famille a commencé de me demander qu'est-ce que tu vas faire maintenant vraiment, mes voisins et après un peu de temps moi-même aussi, les mois ont passé et je me demandais vraiment qu'est-ce que je peux faire. Mais un jour, j'ai eu une expérience. J'étais en train de prier. Pour moi, ce mot prier, c'est un autre mot qui a beaucoup de sens, oui, pour beaucoup de gens. Et ça va, c'est un grand concept. Mais pour moi, ça veut dire que j'écoute. J'essaie de trouver une inspiration. J'essaie de voir les choses dans une manière qui est différente, qui est un peu dehors de mes arguments et tout ça, la crainte et les opinions et tout ça. C'est quelque chose peut-être basé sur quelque chose de plus profond. Donc pour moi, j'essaie de prier et j'ai eu une idée qui m'est venue et au début, c'était dur pour moi de parler de cette expérience parce que c'était un peu difficile d'expliquer. Mais vraiment, c'était comme un command, un requête, un ordre. Ok. Et j'ai écrit, quand j'ai prié, et j'ai écrit ça, que c'était ma responsabilité pour le prochain 30 jours de mieux connaître Dieu, de mieux connaître ce que ça veut dire, le mot Dieu, le concept Dieu, de trouver les idées plus profondes à propos de la spiritualité. Et qu'est-ce que ça veut dire pour ma vie? Et après ça, cet type d'ordre, cette idée, il a dit que si je fais ça et laisse tomber toutes les craintes, toutes les opinions et tout ça, et juste consacré sur ça pour 30 jours, je vais savoir le prochain état après. Ça va être complètement évident. Évident. J'ai signé, comme j'ai écrit tout ça, j'ai signé comme un contrat, et j'ai mis ce papier dans le tiroir. Et je n'ai dit rien à personne à propos de ça. J'ai cru que personne il va penser que je suis fou. Hein. Mais après un mois à propos, après un mois à peu près, j'ai un ami qui était là et il a dit que nous pouvons déjeuner avec un autre ami de lui. Et quand nous étions ensemble, cet ami, il dirigeait une compagnie de la finance et il a offert à nous tous, mon ami et moi, le travail. Mais nous deux, nous avons dit non, merci. nous n'étions pas intéressés de tout par l'idée de la finance. Mon ami, il était un poète. Un poète, et moi, comme j'ai dit, j'étais philosophe. Mais après un jour, après ça, l'idée m'est venue, c'est ça le chemin que tu dois suivre. Et finalement, il y a beaucoup plus de cette histoire, mais finalement, c'est devenu mon carrière pour les prochains 5 ans. Mais je vais arrêter là, juste pour un moment, je vais revenir, mais juste pour ce moment, je vais demander, qu'est-ce que vous pensez à ça? Est-ce que c'était pas par hasard? Est-ce qu'il y a une relation peut-être entre les deux expériences? Est-ce que c'était comme on gagnait le loto? Loto, on dit ça en français? Oui, le loto? C'est un peu dur de savoir avec certitude, sauf que dans mes expériences, je vois vraiment un lien, une relation entre nos pensées, ce que nous sommes, où nous sommes concentrés et nos expériences dans la vie quotidienne. Spécifiquement, quand nous sommes concentrés plus profondément sur les idées spirituelles à propos de nous-mêmes, à propos de notre identité, le but de la vie, les grandes questions comme ça. Je vois dans ma vie que les portes, ils ouvrent quand j'ai un plus grand sens de la vie, de moi-même, et pas seulement de moi-même, comme je suis spécial, mais de tout le monde autour de moi. C'est-à-dire les principes derrière du bien dans la vie de tout le monde. Et je vais expliquer ce que ça veut dire par ça, mais je cherche vraiment un sens d'une loi qui est spirituellement scientifique. Le mot spirituel, ça veut dire qu'il vient de l'esprit, oui, et la Bible dit que Dieu est esprit. Donc le mot spirituel pour moi, ça veut dire que quelque chose vient de Dieu. Si c'est spirituel, ça vient de Dieu qui est esprit. Donc, une loi qui est spirituellement scientifique, c'est une loi qui vient de Dieu. Et si je voudrais chercher une loi de Dieu, la Bible est est une source très importante pour ça. Parfois, les gens, ils aiment bien la Bible. C'est leur rocher, leur guide dans la vie. Et pour les autres, la Bible est un sujet qui est quelque chose où on a le sentiment d'être battu et jugé. Oui, et parfois ça arrive, les gens ils font les choses comme ça dans le nom de la Bible. Mais pour moi, la Bible, il n'y a pas quelque chose dans la Bible qui crée ça. Ça, c'est les opinions des personnes, mais pas dans les enseignements de la Bible, les enseignements de Jésus-Christ. Ce livre, ce n'est pas un seul livre. Oui, c'est beaucoup de récits, d'histoires, les poèmes, les lettres. Et il y a une relation entre tout ça. Il y a quelques relations, mais une relation qui est importante pour moi, c'est que dans chaque instant, les gens ici dans ces histoires, même ils ont eu les religions différentes, les familles différentes, ils sont pauvres, ils sont riches, tout ça, mais ils ont trouvé une inspiration qui leur permet de surmonter les obstacles dans la vie. Les obstacles où le monde qui autour d'eux ont dit que c'était pas possible de surmonter ça. Les choses qui étaient appelées incurables parfois. Et dans chaque instant, ils ont vu quelque chose de plus profond. Ils ont sorti de ce problème. Donc pour moi, la Bible, ce n'est pas quelque chose juste à propos du passé. C'est, il montre les principes qui étaient dans les vies des gens dans la Bible et que nous pouvons comprendre ces principes nous-mêmes aussi. Donc c'est pas seulement les histoires des autres. C'est une histoire de nous-mêmes, c'est une histoire de notre vie. Les principes, ils appartiennent de nous tous, s'ils sont vrais, oui, s'il y a une science à la base de ça. Oui, on dit que quelque chose qui est vrai doit être vrai pour tout le monde. Donc, si je cherche ici dans la Bible pour une loi à la base qui peut-être explique un petit peu cette expérience dans ma vie, et la relation entre mes prières, ce temps que j'ai consacré de mieux connaître le concept de Dieu et ce que suivi ça. Je trouve ici dans le livre d'Ésaïe, il dit ça. Il est écrit comme la voix de Dieu pour le lecteur. Il dit, fais venir mes fils de pays lointains et mes... Pardon? Plus fort? Ah, ok. Fais venir mes fils de pays lointains et mes filles de l'extrémité de la terre, tous ce que s'appelle de mon nom et que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé et que j'ai fait. Vous voyez, mes fils de pays lointains et mes filles de l'extrémité de terre, ça veut dire tout le monde, oui? Oui. Est créé et formé par Dieu. Waouh, c'est cool. Mais quelle est la raison? Quel est le but? Oui. Elle a dit pour sa gloire. Pour la gloire de Dieu. Donc pour moi, la Bible dit que le but de la vie est de glorifier Dieu. Que nous sommes créés pour la gloire de Dieu. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça? On doit savoir ce qu'est Dieu. Oui, si nous sommes créés pour la gloire de quelque chose, on doit savoir quelle est cette chose, oui. Créé pour la gloire de Dieu. La Bible dit que Dieu est la source de tout qui était créé. Et tout qui était créé était bon. Qu'il n'y a pas rien d'autre créé qui ne vient pas de Dieu. Oui, il dit que Dieu est amour. Elle dit que Dieu est l'esprit. Il dit que Dieu est comme un rocher et comme un bouclier. Elle dit que nous sommes comme les poussins sur les ailes de Dieu. Il dit ça dans Psaume 91. Elle dit dans le livre d'Ésaïe que Dieu nous conforte comme une mère. Donc il y a ce sens que vraiment tout qui est bon vient de Dieu. Dieu est le créateur et Dieu est comme un berger. Et il n'y a pas quelque chose autre que Dieu n'a créé pas. J'ai un autre livre ici appelé Science et Santé, intitulé Science et Santé avec la clé des Écritures. C'était écrit par Mary Baker Eddy, la femme qui a fondé la science chrétienne. C'est un livre à propos de la Bible. Elle explique les enseignements dans la Bible, les enseignements de Jésus-Christ et comment nous pouvons avoir plus qu'une foi aveugle, mais une compréhension qui nous permet de vraiment démontrer ce que Jésus enseignait. Par exemple, les dernières 100 pages, ils sont les histoires, les récits des gens qui ont écrit les lettres, expliqué comment ils étaient guéris dans leur vie, souvent des choses qui étaient appelées incurables, ou les expériences qui ont eu l'apparence d'être insurmontables. Donc, ce livre est juste, c'est juste une explication de ça, comment on peut appliquer ça vraiment dans notre vie quotidienne. Et je parle de ce livre parce que dans le glossaire de la Bible, dans Science et Santé, il y a une définition du mot Dieu. Et l'auteur, Mary Baker Eddy, je crois qu'elle a trouvé toutes les qualités de Dieu dans la Bible. Elle a ramassé tout ça dans un endroit. Elle a essayé de vraiment donner un sens de Dieu selon la Bible. Et elle a dit que Dieu, on peut dire qu'il y a 7 synonymes. Qu'on peut dire son synonyme pour le nom de Dieu. Et on peut dire que Dieu est principe, entendement, âme, esprit, vie, vérité et amour. Et vous voyez, il y a l'amour, par exemple, est un mot dans la Bible, mais il y a les autres mots, les autres synonymes ici qui ramassent beaucoup de qualités dans un endroit. Mais je dis tout ça parce que si nous voulions savoir ce que ça veut dire d'être créé pour la gloire de Dieu, on doit savoir ce qu'est Dieu. Mais un Dieu qui est le source de tout qui est bon, qui est l'amour, qu'est-ce que ça veut dire que nous sommes créés pour la gloire d'un Dieu comme ça?
Je crois que j'ai eu la joie de comprendre à quel moment sommes-nous vraiment dans l'amour, la qualité de Dieu, la vérité de Dieu. Et j'ai compris dans un moment, dans une grande épreuve, qu'au moment où nous avons essayé de comprendre que quand nos intentions, nos directives et nos pensées ne sont plus dans la dualité, par exemple, l'harmonie, pas harmonie et inharmonie. En Dieu, c'est l'harmonie, et le reste, c'est dans l'omniprésence de l'amour de Dieu, n'existe plus. Mm-hmm. Et si nous observons avec tout notre cœur, notre façon de vivre aboutit toujours pour l'harmonie, pour nous-mêmes et pour autrui. Même si c'est une attitude qui n'est pas apparemment aux yeux, nous avons le vœu de bénir que l'autre autour de nous reçoive la lumière. Et nous sommes en Dieu.
Par exemple, si nous ressentons l'harmonie, on peut voir que, par exemple, on ne peut pas voir Dieu avec nos yeux, mais on peut voir l'harmonie de Dieu exprimée dans nos vies, dans notre vie. On dit nos vies, notre vie. Donc, le mot glorifié dans le dictionnaire, il dit que le mot signifie de faire connaître quelque chose. La gloire de quelque chose et la brillance, l'éclat de quelque chose. Donc, si nous sommes créés pour la gloire de Dieu, ça veut dire que nous sommes créés pour faire connaître Dieu. Nous ne pouvons pas voir Dieu avec nos yeux, nous ne pouvons voir le vent, mais on peut voir l'effet du vent, oui, dans les arbres. On ne peut pas voir Dieu, mais on peut voir l'harmonie de Dieu, l'amour de Dieu exprimé. Pour moi, ça veut dire que nous sommes comme une vitre, où le bien de Dieu est exprimé. La brillance de Dieu brille à travers de nos vies. Et c'est tout le bien qui vient de Dieu. Mais quand nous sommes aimants, oui, c'est le but de ça, c'est de mieux connaître l'amour. Et par exemple, ça, on peut voir quelque chose encore ici dans les deux listes. La Bible dit que tout qui est bon vient de Dieu. Ça veut dire que tout ça vient d'une source qui est constant, fiable, qui est toujours présent, qui est omniprésent, et nous sommes créés pour faire connaître ces qualités, de faire connaître les expressions de Dieu. On peut dire, par exemple, juste pour un symbole, que Dieu est comme le soleil, et nous sommes comme un rayon du soleil. Oui? Un rayon de soleil, il n'a pas une seule qualité qui n'appartient pas de sa source. Mais il n'a pas la source, oui. Il y a une relation entre les deux, mais ils sont distincts. Distincts. Merci, distincts. Donc, tout qui est bon vient de Dieu. Ça brillait à travers de nos vies. Ça veut dire que les choses ici, les amis, le travail, la famille, la maison, ils ne sont pas l'endroit où on trouve le bien, mais c'est l'endroit où le bien est exprimé. Mais le monde qui nous entoure nous dit, et nous pensons tout le temps aussi, si j'ai le sport que j'aime, si je peux faire ça, si j'ai l'argent, si j'ai une maison, j'ai la sécurité, j'ai la sérénité, j'ai la joie, j'ai l'amour. Vous voyez, il y a toujours dans une science un sens de cause à effet. Et nous pensons souvent que ça, c'est la cause du bien, et le bien est l'effet. Mais la Bible nous fait voir que nous sommes créés pour le but de faire connaître Dieu. Il dit tout d'abord dans la Bible, dans le premier chapitre de la Bible, de Genèse, il dit que nous sommes créés à l'image de Dieu. Donc, ça veut dire que nous avons, par exemple, un ADN spirituel, pour ainsi dire. Toutes les qualités qui appartiennent de Dieu, appartiennent de nous aussi. Comme un rayon du soleil, il a les mêmes qualités. Nous avons les mêmes qualités qui viennent de Dieu. Nous ne créons pas ça. C'est déjà là. Oui, nous ne devons pas gagner ça et nous ne pouvons pas faire quelque chose qui peut l'amoindrir, ce fait. C'est déjà là. C'est déjà créé en nous. Et nous sommes créés pour le but de ça. Nous sommes créés de faire connaître tout ça dans notre vie quotidienne. Non? Donc, nous prenons l'intelligence et nous exprimons ça dans le travail. Nous prenons amour et nous exprimons ça avec nos amis, avec nos familles, les enfants, tout ça. Vous voyez, il y a une relation, il y a une cause à effet, mais c'est l'inverse vraiment. En pensant que ça c'est la cause et ça c'est l'effet, mais c'est vraiment que Dieu est la source et en Dieu on peut vraiment trouver ses qualités dans une façon qui est constante et fiable. Et on peut toujours exprimer ses qualités partout. Je peux exprimer l'amour avec ma femme, mais je peux exprimer l'amour dans une autre façon, ici avec vous ce soir. Oui? Donc j'ai toujours l'amour avec moi, mais si je pense que c'est juste quand je suis chez moi, et je suis ici devant vous, j'ai le sentiment de manque quelque chose d'important. Et je ne peux pas être épanoui. Donc, cette relation est très importante et la Bible dit que la loi est que nous sommes créés pour la gloire de Dieu. Tout ce brillant, si on prend tout le bien de Dieu, pour moi, on peut appeler ça le Christ. Vous savez, le Christ n'était pas le nom de famille de Jésus. Oui? Son prénom n'était pas Jésus, son nom de famille n'était pas Christ. Christ était un titre qui signifie la brillance de Dieu, la présence de Dieu, l'activité de Dieu qui est brillée à travers de sa vie. Et c'est le même Christ qui est partout et tout le temps, qui appartient de tout le monde. Il ne crée pas le bien en nous-mêmes, c'est le Christ, c'est la présence, l'activité de Dieu, la brillance de Dieu qui est exprimée à travers de nous. Je vais vous dire la deuxième partie de mon histoire. J'ai commencé dans cette boîte de finances, mais c'était vraiment, j'ai détesté ce travail. Et en fait, c'était pas difficile. Ils ont eu beaucoup de problèmes avec moi aussi. Quand j'ai commencé, je n'ai eu l'expérience. Je n'ai pas étudié la finance. Donc, il y avait les uns dans le bureau qui m'arrêtaient dans le couloir et disaient « Pourquoi tu es ici? Qu'est-ce que tu vas faire ici? » C'était dans l'époque, c'était 7 ou 8 ans avant les grandes crises, oui, économiques aux États-Unis. Et vous savez qu'il y avait beaucoup de problèmes, beaucoup de manquements d'éthique. Dans cette époque, les gens ont fait les choses pas honnêtes. Il y avait beaucoup de travail comme ça. Donc, ils ont cru que j'étais juste quelqu'un comme beaucoup d'autres qui était là seulement de gagner un peu d'argent, mais pas vraiment d'aider les autres, pas vraiment de faire le travail dans une manière qui était pour le long terme. Le long terme. Bon, ok. Aussi, je n'avais pas non plus une belle voiture, les beaux vêtements. Donc, même les secrétaires étaient méchants avec moi. Quand je suis arrivé, ils m'ont demandé qu'est-ce que tu es le jardinier, qu'est-ce que tu es le. Toujours, il y a une blague ou quelque chose comme ça. Et c'était, je ne sais pas si ça existe ici en Suisse, mais aux États-Unis, ce travail était pour commission only, pour commission?
Basé sur commission
seulement. Donc, je n'avais pas un salaire fixe. Et je n'avais pas non plus des clients. Donc, j'ai eu zéro dollar. Mais les secrétaires, ils n'ont pas cru que je vais être là-bas beaucoup de temps. Donc, ils n'ont pas commandé les cartes d'affaires pour moi. Ils n'ont pas la carte
de visite.
Ah, bon, merci. Ils n'ont pas m'a donné un bureau. Donc, j'ai commencé aux côtés de la secrétaire de la vice-présidente. Je n'avais pas un bureau, donc j'ai commencé à son bureau et j'ai fait les copies pour elle. Oui. Elle m'a donné les choses à faire et j'ai dû apprendre tout. Donc, après un peu de temps, je peux faire les copies, donc elle m'a enseigné de remplir les fiches, formulaires pour les clients. Après un peu de temps, je peux appeler les clients. Et après un peu de temps, le vice-président, il a vu que je peux faire plus, donc il m'a invité de rester à côté de lui à son bureau. et il m'a donné son travail, oui. Et après 4 mois, les relations entre mes collègues et moi ont amélioré. Chaque jour était tellement dur pour moi. Mais j'ai su une seule chose, que j'étais là-bas à cause de mes prières, à cause de cette expérience où j'ai trouvé plus que le sens de ma vie, mon raison d'être. Donc j'ai eu vraiment le sentiment que j'étais là-bas de faire connaître Dieu. Pas avec les mots, pas de, comment on dit, prêcher, mais d'exprimer l'intelligence, l'honnêteté, l'amour, l'harmonie, tout qui est la paix, tout qui était là. Donc quand les gens étaient méchants avec moi, j'ai su que j'étais là-bas seulement d'exprimer l'amour. Je n'étais pas là d'avoir les amis, gagner l'argent. Est-ce que vous savez quelqu'un qui dit « je travaille, mais ça m'en fiche si je gagne le travail, j'ai gagné l'argent » Désintéressé. Oui, vraiment, j'étais là seulement pour une seule chose. Et j'ai su ça, j'ai ressenti ça. Donc, quand les gens étaient méchants avec moi, j'exprimais seulement l'amour. Après 4 mois... comme j'ai dit, nos relations ont amélioré et après, dans les cinq années qui ont suivi, on a eu les bonnes relations. En fait, ils ont parlé de moi avec leur vie privée souvent. On a parlé des choses spirituelles aussi de temps en temps. Mais la chose qui était peut-être la plus difficile était qu'il y a beaucoup là-bas qui ont dit que je dois... jouer le jeu comme tous les autres, que je dois faire les choses malhonnêtes. Oui, c'était tellement dur dans ce secteur, c'était la façon de faire les choses normalement, chaque jour. Ils m'ont dit que mon attitude outre-morale n'apporte rien. Et de temps en temps, c'était vrai, j'ai eu des clients qui m'ont demandé est-ce que je peux faire ça ou ça, et j'ai dit non, je ne fais pas ça, je peux faire ça, et il m'a quitté, ils m'ont quitté, oui, et c'était difficile. Quand on a quelques clients et ils y quittent, c'est difficile. C'est difficile toujours quand on dit tu dois faire les choses dans une autre façon. Ils ont eu un nom pour moi, ils m'appelaient Monsieur Moral, mais pas dans une façon qui est gentille. Parfois dans ce secteur, ça semblait que c'était vraiment impossible de réussir sans sans faire les choses comme ça. Et quand j'étais dans un coin et ça semble que c'était vraiment impossible de finir le travail sans faire quelque chose comme ça, ils m'ont dit, qu'est-ce que tu vas faire maintenant, Monsieur Moral? Et souvent, j'ai juste fermé la porte et j'ai prié. Vraiment souvenir. Que j'étais là seulement pour une seule façon. J'ai me donné un titre. j'ai dit que j'étais, juste à moi-même, j'ai dit que j'étais le reflet exécutif. Oui? Parce que aux États-Unis, maintenant, on ne dit pas secrétaire, on dit les assistants exécutifs. Donc, c'était juste un jeu avec les mots un petit peu. Mais je dis, je suis reflet exécutif. Je suis ici seulement pour ça. Donc, après toutes ces difficultés, 8 mois plus tard, le chef de la société, il m'a demandé si je veux déjeuner avec lui. Et il m'a dit qu'il va ouvrir deux nouvelles... Agence. Il dit qu'il va donner l'un à la vice-présidente et l'autre à son frère. Et il a besoin de quelqu'un de prendre soin de notre première société, notre première agence. Et tout d'un coup, j'étais le nouveau chef. Ouais. Le nouveau chef, oui. Avant ça, je n'avais pas... Quand j'ai fini, par exemple, les projets, on dit ça, les projets avec les clients, ils en appartiennent de le vice-président. Donc, c'était lui qui a gagné l'argent chaque fois. Je travaillais pour rien. Mais pendant ce temps, les clients, ils ont vu qu'ils peuvent avoir plus de confiance en moi. Donc, le chef, il a vu que les relations ont amélioré pendant ce temps. Et même quand j'ai perdu les clients, j'ai gagné 3 fois les clients. Et les clients, spécifiquement des gens qui étaient dans ce secteur pour un long temps, qui ont cherché quelqu'un qu'ils peuvent trust, qu'ils peuvent faire confiance. Oui. Donc, j'étais le nouveau chef. De cette agence. Mais la seule chose qui n'a pas changé, était mon travail, mon vrai travail. Vraiment, je n'étais pas là de gagner l'argent, d'avoir un bon titre. J'étais là seulement d'être le reflet exécutif de Dieu. J'étais là seulement d'exprimer les qualités. J'ai dû voir chaque jour, et chaque jour, ce n'était pas évident. Mais chaque jour, j'ai dû voir que tout le bien en la vie vient de Dieu. Et j'ai dû vraiment trouver ça. Parfois, on dit, OK, je vais chercher les choses spirituelles pour m'aider d'avoir les choses que je veux vraiment. Oui? Donc, on essaie d'utiliser Dieu pour notre volonté. Nos propres fins, oui. Et ça ne marche pas. On dit que je vais prier, et si je prie, est-ce que j'ai reçu encore les choses que je veux vraiment? Non, pas encore. Ok, je vais prier encore. Est-ce que j'ai les choses qui sont vraiment importantes pour moi? Non, pas encore. Je vais prier. Mais ça, ce n'est pas le but du prière pour moi. Le but, c'est de vraiment trouver le sentiment que c'est déjà avec nous. Que c'est déjà créé en nous, déjà créé à partir de notre relation avec notre source. Et le mot découverte, c'est très important pour moi parce que c'est différent que les pensées positives. On peut avoir les pensées positives, mais si la voiture est en panne et on a les pensées positives, ça veut dire qu'on marche jusqu'au travail avec une bonne attitude. Mais si on fait une découverte, ça veut dire que on a trouvé la solution pour la voiture, ou trouver quelqu'un d'autre qui le sait. Donc c'est ça le mot important. Le chemin spirituel n'est pas seulement pour le but d'avoir une bonne attitude. C'est de vraiment faire une découverte. L'amour est vraiment, littéralement, avec nous. Tout le temps. Et on peut découvrir ça. C'est disponible à tout le monde. On ne doit pas devenir membre d'un certain groupe ou avoir un certain titre. Ça appartient à tout le monde, tout le temps, sans exception. Et nous sommes tous capables de faire une découverte comme ça, même à la face de l'apparence de quelque chose tellement différent. Et c'est ça dans l'histoire d'humanité. Souvent, une découverte, il vient contre l'apparence à la surface des choses. Par exemple, on ne peut pas avoir tout d'abord les hommes qui volent dans le ciel, oui, mais ils ont découvert les lois de l'aéronautique. On ne peut pas voir les lois, mais il peut comprendre les lois. Et avec cette compréhension, parce que cette compréhension était basée sur quelque chose qui est vraiment vrai, la réalité des choses. Avec cette compréhension, ils peuvent construire un avion, oui. Ils peuvent faire quelque chose comme ça. Donc souvent, ça commence avec une idée qui est contraire à l'apparence des choses. Mais le plus que nous comprendre cette idée, si c'est vrai, si c'est basé sur les lois, par exemple les lois à la base des vies exprimées dans la Bible, s'il y a les principes derrière de ces expériences, si ce n'est pas seulement les miracles qui viennent de temps en temps pour un mais pas pour les autres, si c'est basé sur une loi, nous tous, nous pouvons faire les découvertes et nous pouvons découvrir tout ce que nous cherchons, tout ce que nous voulons d'avoir une vie pleine de sens dans ce grand mot Dieu, dans cette grande idée de la spiritualité. Et quand nous avons le sentiment, on peut prendre ça et exprimer ça ici, dans le travail, avec nos amis et tout. Il y a vraiment une cause à effet, une relation très importante. Mais ça ne marche pas avec fiabilité et constance dans notre direction. Oui? Mais j'ai une question. Qu'est-ce que vous pensez? Vous vous levez le matin et vous disiez à vous-même, wow, je suis vraiment créé pour le but d'exprimer Dieu. C'est ça ma vie. Je suis ici, mon travail, je commence chaque jour avec l'idée, je suis ici pour faire connaître Dieu. Je pars avec mes amis, je pars avec ma femme, toujours avec l'idée que le but c'est d'exprimer l'amour que j'ai de Dieu. Est-ce que nous pensons à ça souvent? Oui, bon, ok, très bien. Mais quand on voit les nouvelles, les actualités, on dit ça? Oui. Est-ce que ça a l'apparence de ça? Que le but de la vie est ça? Il y a une contradiction. C'est difficile de temps en temps de vraiment voir ça. Il y a toujours la tentation de croire que ce n'est pas la vie actuelle. Oui? Nous avons tous les tentations comme ça. Donc la Bible, je crois que c'est important dans la Bible. La Bible nous fait voir pourquoi. Au début de la Bible dit que nous sommes créés à l'image de Dieu, mais il y a une autre histoire qui suit. Et cette histoire, pour moi, c'est une allégorie. C'est pas une histoire, un récit historique. Donc il y a un moral de cette histoire. Et pour moi, ça montre d'où vient toute l'apparence des choses qui sont très contraires. Nous pensons souvent à autre chose. Nous avons, comme j'ai dit, un sens de vie qui manque quelque chose. Et nous disons, si mon frère, s'il fait ça, je vais faire la qualité qui est importante à moi. Si j'ai cette maison, nous pensons à ça tout le temps, je crois, souvent, alors. Mais cette tentation pour moi, c'est comme le courriel importune. Oui? On peut dire ça?
Spam.
Ça vient à tout le monde. Mais quand on reçoit les publications comme ça, les publicités dans le courriel. Courrier, merci. Courriel, ok, courriel. C'est une course en français ce soir. Oui. Les pubs, on ne dit pas que c'est ma faute. Oui? Si on a un pub publicité, par exemple, qui dit on doit vraiment acheter une nouvelle voiture. Puis on ne voit pas ça et dit, mais quel est le problème avec ma voiture? Pourquoi j'ai reçu ça? Et c'est qui croit qu'il y a un problème avec ma voiture? ce n'est pas personnel. Vous voyez, quand on nous tous, nous recevons ça tout le temps. Mais ce n'est pas personnel. Il n'y a pas une intelligence derrière de ça qui sait quelque chose vraiment à propos de nos vies. Vous pouvez me suivre avec cette idée? OK. Mais c'est différent quand on a le sentiment que nous manquons de quelque chose. Oui, c'est la même tentation, mais on croit que c'est vraiment à cause de quelque chose de très tangible dans notre vie. Mais cette allégorie, il dit qu'il y a ces deux caractères, Adam et Ève, ils ont eu tout ce qui était bon, mais ils ont tenté par quelque chose. Ils étaient tenté par, c'était quoi, l'arbre de connaissance du bien et du mal, oui? L'arbre du quoi? Du connaissance. Donc ça signifie une idée, un paradigme par exemple. Et ce paradigme, il a dit que s'il mange de cet arbre de connaissance du bien et du mal, ils vont avoir vraiment l'intelligence. Et ils ont mangé ça, et après, ils ont ressenti honte. Oui, après le manquement des choses. Ils ont du travail juste pour gagner un petit peu, juste pour survivre. Mais ce paradigme, est-ce que ça ressemble à quelque chose? Pour moi, l'idée que la vie est le bien et le mal mélangés, c'est l'idée qu'on peut avoir le travail, on peut perdre le travail. On peut avoir les bonnes amies, mais on peut manquer, oui, les amis. L'argent peut venir et aller. C'est l'idée que nous avons tous les bonnes expériences, les mauvaises expériences, et tout dépend sur ça. C'est un paradigme. C'est une façon de voir notre vie, le but de notre vie. Mais si on commence avec ça, on ressent la même chose que Adam et Ève. Si on commence avec cette connaissance, on a un sentiment de honte que je ne vaux pas, je ne vaux rien, que ma vie manque quelque chose, que je dois travailler juste pour gagner un petit peu de survivre. Donc pour moi, quand nos vies, il semble cette idée comme ça, quand on voit ça sur les nouvelles, on doit nous demander, c'est quoi mon paradigme? Est-ce que je commence avec la vérité de Dieu? Ou si je commence avec un type de connaissance qui est basé sur un paradigme du bien et du mal mélangé et que ça c'est la vérité de Dieu. Et on ne peut rien faire pour changer ça. Et j'ai un choix dans chaque instant. Parce que dans la Bible, cette allégorie, c'était une tentation. Le bien était déjà là. Ils ont tenté par ça. Et pour moi, nous sommes tous tentés par ça. C'est pas notre faute. Oui, nous ne sommes pas coupables de quelque chose quand ces tentations viennent. Mais nous ressentons ça, oui. Si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, nous voyons le monde comme ça, souvent. Mais nous demandons, quel est ma paradigme? Est-ce que je commence aujourd'hui avec cette idée ou est-ce que je peux faire une découverte? Est-ce que je peux découvrir plus à propos de la vérité de Dieu, la présence de Dieu, l'activité de Dieu, la bonté de Dieu? Est-ce que je peux vraiment ressentir ça ici? Pas dans un sens basé sur une foi aveugle, pas seulement dans un sens qui est juste comme les idées positives, mais vraiment dans un sens où on a une compréhension de Dieu. Une compréhension qu'on peut prouver ça. On peut construire quelque chose avant ça. On peut exprimer ça. Et si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, nous savons. Nous savons si nous ressentons ça ou si nous devons faire une découverte plus à propos de ça. Mais si nous ressentons quelque chose de contraire, on a un choix, vraiment. C'est ça l'allégorie, ça me fait voir ça. Et pour moi, toute notre vie est inclue dans cette idée, parce que la Bible dit que tout qui est bon vient de Dieu. Donc parfois, on séparait les parties de nos vies, on dit que, ok, peut-être si je prie, si j'avais un sens d'amour dans ma vie, ça améliorerait mes relations avec mes familles, avec mes voisins, mais par exemple, ma santé. Mais ce mot, il est ici, santé, mais santé, ça veut dire la balance, l'harmonie, la fonction, oui. Tous les mêmes qualités, mais ils sont exprimés dans nos corps. Mais ils peuvent être exprimés dans nos relations. Ils peuvent être exprimés dans le travail. Mais il y a la même source de cette harmonie, de cette balance. Et tout ça, cette santé, on peut avoir toutes ces qualités, ils sont exprimés aussi ici, dans le corps, notre corps. On ne peut pas séparer une partie de notre vie que toutes les autres parties. Et j'ai juste une histoire plus et je vais finir. c'est quoi le temps? On a commencé 7:30. Mais c'est tard, hein? Pardon. Vous voulez écouter une histoire plus ou? Ok, c'est très rapide. Hein? j'ai commencé à l'université. J'ai eu un modèle de réussite. Oui, j'ai eu l'idée que je dois. C'était avant mes études en philosophie. J'ai commencé avec l'idée que je dois faire un certain type de travail. Je dois avoir les certains types d'amis et je dois étudier à un certain type d'université le plus connu et tout ça. Et si j'ai eu ça, je vais avoir les qualités dans ma vie qui étaient très importantes. Ma famille était très pauvre quand j'ai grandi. Et j'ai eu le sentiment, si je veux réussir dans ma vie, je dois faire ça et tout ça pour réussir. Et j'ai fait ça et j'ai réussi, en fait. Quand j'étais lycéen et j'ai commencé mes études à l'université dans la même manière, mais je suis tombé malade dans le deuxième semestre de mes études à l'université. Et j'étais dans l'infirmerie pendant 2 semaines. Les médecins ont cherché vraiment la cause et ils ne peuvent pas réussir à découvrir ce que c'était. Ils m'ont testé pour beaucoup de choses. Je n'ai pas pris les médicaments pendant ce temps. J'ai prié avec une praticienne de la science chrétienne et même les médecins, ils ne peuvent pas me dire comment je peux. Ils n'ont pas une opinion. Donc j'ai eu ce traitement par une praticienne de la science chrétienne. On a prié ensemble à propos de ma vie. Et un jour, elle a dit que si ma santé revenait, je ne dois pas recommencer dans la même manière. Je n'ai rien dit à propos de ma vie. Je n'ai pas eu conscience que j'étais triste, en fait. Je n'ai pas eu un sens d'authenticité dans ma vie. Que tout ce que j'ai fait, c'était seulement de plaire les autres. Mais quand elle a dit ça, quelque chose a cliqué. c'est franglais, hein? Pardon. Mais quelque chose a changé dans ma tête. Et j'appelais ma mère et j'ai dit, Est-ce que c'est vrai? Est-ce que je peux quitter la faculté? Elle a dit oui. Tu peux faire tout ce que tu as besoin de améliorer ta santé. Et j'ai dit ok. En fait, j'ai quitté. Et 7 jours-là, ma santé a commencé à améliorer. Et c'était quelques jours et j'étais en pleine santé. I was completely better. Mais pour moi, après ça, j'ai dû vraiment comprendre quel est authentique pour moi, mes études, mes amis, mes activités, tout. Et quand je suis revenu à l'université, j'ai changé tout. J'ai commencé avec les nouveaux amis, avec un nouvel trajet de mes études, la philosophie par exemple. Mais ma santé est immédiatement à revenir. Oui. Donc pour moi, et je vois ça tout le temps avec mes patients et dans ma vie, qui est en relation, il n'y a pas un seul parti de notre vie qui est à partie du bien de Dieu. Notre santé, nos relations, nos finances, tout. Et le but de la vie, vraiment d'exprimer Dieu, de faire mieux, faire connaître Dieu, est à la base de tout. Mais je vais lire juste une dernière phrase dans ce livre Science et Santé. L'auteur dit admettre en son fort intérieur que l'homme est la propre ressemblance de Dieu, mais l'homme a même de saisir l'idée infinie. Vous voyez, elle ne dit pas que nous devons saisir l'idée infinie avant d'admettre que nous sommes la propre ressemblance de Dieu. Il y a cause à effet ici. On doit commencer par l'admission en notre fort intérieur que nous sommes la propre ressemblance de Dieu et chercher ce que ça veut dire pour nous-mêmes et pour tout le monde, sans exception. Et l'effet est que nous sommes plus capables de saisir l'idée infinie. Pour moi, ça veut dire vraiment réussir. Et souvent dans les cadres qui sont très différents que nos attentes. Mais si c'est bien, si il vient de Dieu, c'est bien, ils peuvent être exprimés dans une façon qui est vraiment infinie, parce qu'il vient d'une source qui est infinie. Donc c'est une joie, vraiment, nos vies, le but de notre vie. Et c'était une joie d'être ici avec vous ce soir. Merci beaucoup.
Est-ce que peut-être on a le temps pour une question? Est-ce que quelqu'un veut poser une question? De toute façon, Dr. McElroy est ici encore. Si vous voulez descendre et lui poser une question personnelle, il n'y a absolument aucun problème. Mais est-ce que quelqu'un voulait poser une question d'intérêt général? On vous amène le micro. Il n'y a pas de questions bêtes.
Bonjour. Comment avez-vous connu la science chrétienne? Étant jeune?
L'école? Oui, mes parents ont étudié. On étudie la science chrétienne. Ils m'ont montré ça. J'ai assisté à beaucoup de services, à les confessions différentes. Mais c'était eux qui m'ont expliqué un petit peu de ça et j'ai vraiment étudié ça plus moi-même plus tard. Ouais. Je crois que c'est...
Je crois que c'est l'heure. Bon retour dans vos foyers, messieurs, dames. Merci d'être venus. Et de nouveau, n'hésitez pas à venir s'il y a une question. Encore bravo, Tom, et merci.
Merci à vous.